Alors bonjour Catherine Brun. Je souhaite d'abord vous demander quelle influence pour écrire cette biographie de Pierre Guyotat. Est-ce que c'est celle notamment de Michel Suria sur sa biographie de Bataille? Est-ce que ça peut être celle de Christophe Bidan pour sa biographie de Blanchot? Est-ce que vous avez eu d'autres influences pour écrire cette biographie?
En réalité, je lis très peu de biographies. J'ai lu celle de Bataille, j'ai lu celle de Blanchot, bien sûr, mais je n'ai jamais réfléchi personnellement, même si j'avais assisté à des journées sur la biographie à l'université Paris 7, jamais réfléchi personnellement à ce que ça serait qu'écrire une biographie, puisque au départ j'avais une réticence sur l'idée même de la biographie. Ce qui m'intéressait principalement, c'était d'essayer de montrer, et c'est une idée qui m'était venue au cours de ma thèse, à quel point l'écriture de la vie d'un artiste était essentiellement l'écriture de la vie de son écriture. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ouvrage, avant de s'intituler Pierre Guyotat et ses biographiques, devait s'intituler Pierre Guyotat, la vie de l'écriture. Je voulais essayer de montrer comment cette œuvre se nourrissait de déficits de l'existence. Et en même temps, il y avait exactement l'effet inverse, c'est-à-dire comment cette œuvre était aussi grosse de tout ce que la vie avait pu porter de combats, de rencontres, d'affrontements, etc. Donc c'est vraiment le nœud inextricable entre cette vie et cette écriture et cette œuvre dans son dynamisme, dans son mouvement, que je voulais essayer de montrer. Et il me semble que il est très difficile de décider de la forme que prendra une biographie a priori. J'ai le sentiment que, mais c'est un sentiment qui naît simplement de ce travail-là, je n'en ai pas fait d'autres sur d'autres auteurs, mais j'ai le sentiment que chaque œuvre, chaque vie impose sa forme. Et que donc, bien sûr, les lectures d'autres biographies sont intéressantes. Moi, j'ai lu celle de Suria sur Bataille, celle de Bidan sur Blanchot, plus par intérêt pour Blanchot et pour Bataille que pour réfléchir à ce que c'était une biographie, parce que vraiment, j'ai le sentiment que chaque itinéraire impose un mode d'appréhension particulier. Et que je n'aurais pas écrit, par exemple, la biographie d'Armand Gatti, comme j'ai écrit l'itinéraire de Pierre Guyotat. Voilà.
Très bien, alors nous allons rentrer dans le vif du sujet et pour commencer sur l'analyse que vous faites de la langue des livres qu'utilise Pierre Guyotat. Est-ce que cette analyse grammaticale, cette analyse syntaxique, cette analyse du vocabulaire pour chacun des livres de Guyotat, est-ce que ça vous a aidé à comprendre mieux de ce dont est-il retourné dans ces livres? Je pense notamment au livre lui-même paru en 84, qui pour moi, en tant que lecteur, reste complètement inaccessible.
Alors c'est vrai que le livre qui s'intitule Le Livre est un livre particulièrement difficile d'accès, ne serait-ce qu'à travers son projet. On sait que c'est le livre peut-être le plus ambitieux de Pierre Guyotat, c'est aussi celui qui est publié tout à fait inachevé. Hein. Pierre Guyotat dit suspendu, suspendu faute de moyens, dit-il. On peut supposer que ça n'est pas simplement faute de moyens matériels, mais aussi faute de pouvoir soutenir physiquement, psychiquement, cette ambition dans le temps. Donc le projet, l'idée, c'est de Pierre Guyotat, c'est de remonter l'histoire de l'humanité. Et effectivement, à partir du XXe siècle, donc en gros à partir de la guerre d'Algérie, jusque au, si je me souviens bien maintenant, troisième ou cinquième siècle avant Jésus-Christ, et effectivement, au cours de cette traversée, on voit qu'il y a des pérégrinations de corps, esclaves, muets. Donc, on n'a pas le relais de leur langue à eux, on a simplement la langue de Pierre Guyotat qui vient rendre sensible ce voyage dans le temps et ce voyage dans l'espace. Et chaque fois que les corps remontent l'histoire, la langue elle-même remonte cette histoire. Donc, par moments, elle emprunte des racines à l'hindi, au grec, etc. D'autres moments, elle crée des mots-valises à partir du grec, du latin. Bon. Donc, on a vraiment, si on réfléchit sur, déjà, ne serait-ce que le lexique, pour commencer, on a immédiatement sensible cette traversée du temps. Bon, cette ambition, elle est sensible là. Ensuite, évidemment, il y a la question des ellipses, des digressions. Hein, et c'est vrai que la façon qu'ont les corps de s'enchaîner, les corps et les objets, c'est-à-dire qu'on passe d'une époque à l'autre à travers simplement une fresque qui est peinte, dans une église ou bien à travers un bijou, à travers un objet qui transite avec des marchandises. Il est bien évident que tout cela va dans le sens de l'ellipse, du raccourci, de la densité. Donc ce qui se passe au niveau de la construction de la phrase se passe au niveau de l'œuvre. Et puis... on a aussi dans cet ouvrage un travail sur la langue qui était déjà sensible dans Prostitution, mais qui devient beaucoup plus savant. Prostitution était un livre essentiellement parlé, hein, c'était des figures qui s'apostrophaient l'une l'autre. Pierre Guillotat parlait de tchatch prostitutionnel. Et quand on passe de Prostitution, qui est un ouvrage extrêmement didactique, extrêmement pédagogique dans sa construction, au livre qui se veut un ouvrage savant et qui a été écrit, d'ailleurs c'est intéressant, parallèlement à un autre ouvrage qui est encore inédit, Histoire de Samoura Machel, qui était plus proche par sa figuration et par son inspiration de Prostitution, même s'il était beaucoup moins parlé. Mais Pierre Guillotat a travaillé simultanément sur ce qu'il appelait deux matières. La matière dite savante, le livre, et puis cette autre matière qu'il appelait sauvage, même si, évidemment, cette question du sauvage est beaucoup plus subtile que ce qu'on a pu vouloir dire, et il ne faut pas entendre là forcément une écriture accompagnée d'un rituel masturbatoire systématique. Bon. Mais néanmoins, il y avait ces deux écritures parallèles, et le livre, c'est vraiment l'écrit savant par excellence, celui qui est censé condenser, retenir l'ensemble du projet de Pierre Guillotat, c'est-à-dire évoquer cette histoire de l'humanité en montrant ou en faisant apparaître ce fil rouge de l'esclavage, puisque la prostitution n'est jamais qu'une forme d'esclavage, peut-être celle qui nous touche le plus encore aujourd'hui, mais à condition de bien vouloir entendre que la prostitution, ça n'est pas simplement la forme commerciale avérée de la prostitution, mais un asservissement. Hein, donc c'est véritablement de ça qu'il s'agit, cette dialectique de l'asservissement et de la liberté que son œuvre travaille et parcourt et interroge, qui me semble vraiment au cœur de son projet, et puis en même temps bien montrer cette filiation, cette généalogie. Et quand on écrit ensuite Progéniture, on voit que déjà le projet de Progéniture est présent dans le livre, avec le souci de manifester cet asservissement dans précisément la mutité des figures, leur impossibilité d'accéder à une langue, et le livre doit proposer cette langue à ceux qui en sont démunis. Mais en même temps, cette langue n'est pas une langue de la libération, c'est au contraire une langue qui manifeste quelque chose de raide, de dur, comme une espèce d'imperméabilité entre les créatures évoquées et leurs pensées. On n'a jamais accès à la pensée de ces figures dans le livre. Ce sont uniquement des corps, des états de corps, des états de matière. Et là, on a quelque chose qui tient dans le même temps à la fois Éden, qui est vraiment du côté de l'épure. Et il me semble que le livre, du point de vue de la figuration, fait dans l'épure. Et la langue telle que Guillotat a pu la travailler, c'est-à-dire une langue qui tient l'ensemble de la chaîne, à la fois ses origines gréco-latines, entre autres, mais aussi, et le livre le fait apparaître, ses multiples origines, multiples pays, multilangues, etc. Et en même temps, cette ouverture sur les voyelles, cette densité qui est liée à la ponctuation, qui est liée aux apocopes, et qui vient tenser et qui vient manifester la violence à l'œuvre dans la langue. C'est-à-dire que cette violence, elle n'est pas simplement infligée par l'histoire, elle n'est pas simplement infligée par la matière, elle est aussi subie dans la langue. Et c'est parce qu'elle est subie dans la langue, peut-être, que ces créatures, que ces figures sont réduites au silence.
Alors, on va continuer sur comment est-ce que vous lisez les textes de Guyotat. Moi, j'aimerais savoir, justement, est-ce que vous les lisez crayon à la main pour démonter l'action, pour repérer les figures, pour voir comment c'est construit? Parce que j'imagine la difficulté pour un texte, bon, comme le livre, on en a parlé, mais qui est très dense, mais aussi pour un texte comme Progéniture, de par sa longueur, 800 pages. Est-ce que vous les lisez vraiment en étant très, très, très active et en crayonnant partout dans tous les sens?
Je lis quasiment toujours crayon à la main, pas seulement Pierre Guyotat. C'est quelque chose de systématique, je pense que c'est peut-être un réflexe professionnel. Je ne lis sans crayon que des ouvrages qui n'ont aucun intérêt et qui sont destinés à me mettre en sommeil. Tous les autres, tous ceux qui m'importent, je les lis crayon à la main. Et je les lis crayon à la main parce que c'est pour moi une façon de, non seulement de repérer les éléments à retravailler, sur lesquels réfléchir, etc., mais c'est aussi une façon d'inscrire ce texte dans ma mémoire. Alors je vais faire le lien avec ce que Pierre Guyotat disait de ses propres textes et ce que Roland Barthes en disait au moment de Éden, Éden, Éden. Et il disait que ce qu'il voulait proposer, c'était des textes qui soient inscrits plutôt qu'écrits. Et cette différence entre l'inscription et l'écriture impliquait, de son point de vue, le recours à des dictionnaires. Pour le livre, j'ai opéré plusieurs lectures de l'ouvrage, chaque fois crayon à la main, et non seulement crayon à la main, mais recours au dictionnaire à l'appui. Et un recours à de multiples dictionnaires, recours à des encyclopédies, recours à des atlas, pour essayer de repérer justement ces fluctuations de lieux, ces fluctuations d'espace que je n'aurais pas été capable de décrypter seule avec ma culture de départ. D'ailleurs, Pierre Guyotat lui-même a fait ce travail au moment de l'écriture des textes. Et quand il se repenche parfois sur ces textes-là, il y a pour lui-même des éléments qu'il n'arrive plus à identifier. Hein. C'est donc le signe qu'il y a là un travail et qu'on ne peut entrer tout à fait dans l'intelligence de ces textes sans ce travail personnel. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas lire ces textes sans annoter et sans faire ce travail de recherche, ce travail savant de lecture. Parce que je pense que ces textes peuvent être appréhendés de différentes manières. Moi, je les lis en sachant aussi qu'ils vont être objets d'analyse et en essayant de percer le plus possible l'ensemble de leurs composantes et de leurs présupposés et de leurs implicites. Mais il est bien évident que l'on peut entendre ces textes. D'ailleurs, si Pierre Guyotat multiplie les lectures de son œuvre, c'est bien précisément parce qu'il a la conscience et le sentiment que ces textes ne peuvent pas être forcément entendu au sens de compréhension par tous, et que peut-être que le son peut aider à l'intelligence et à l'appréhension de ces textes. Bon, donc si on peut entendre ces textes, c'est bien qu'il est possible de ne pas avoir de crayon à la main et que l'on peut jouir de cette façon du texte. Et à ce moment-là, on jouit évidemment de sa portée poétique, du rythme du texte, de sa beauté, on saisit des formules, même si je crois qu'en toute honnêteté, les auditeurs de ces lectures doivent reconnaître que le fil de la fiction leur échappe parfois un tout petit peu. Quand on lit, évidemment, on a un autre projet. On est dans un rapport d'abord solitaire au texte, alors que dans l'écoute, sauf si évidemment on écoute le CD qui était joint à Progéniture dans la solitude, mais on est dans un espace public, on est dans le domaine du spectaculaire, et donc même l'écoute est parasitée par la vision, enfin il y a un ensemble de phénomènes qui entourent l'écoute, qui sont propres au théâtre. Dans la lecture, on est dans ce rapport immédiat, direct, de confrontation de soi, d'une quête personnelle et de ce que l'on est capable d'entendre. Et je crois qu'après, tout dépend du rapport que l'on a à l'impossible, à la difficulté, à ce qui échappe. On peut certains me l'ont dit, certains lecteurs, on peut se contenter de saisir l'ensemble et d'être ravi. Voilà. Ça n'est pas mon approche. Moi, j'aime essayer de comprendre. J'aime m'interroger. Et c'est d'ailleurs parce que dans mon approche des textes, quand j'ai lu Pierre Guillotat pour la première fois, donc c'était en 90, je n'ai pas trouvé à ce moment-là d'aide, d'appui de Becky, que j'ai eu envie d'essayer, moi, d'apporter des éléments d'aide à la lecture et à la compréhension.
Puisque je parle à une universitaire, est-ce que vous pouvez me dire comment Pierre Guillotat s'empare de l'épopée ? Est-ce qu'il détourne ce qu'il en est de l'épopée avant lui ? Qu'est-ce qu'il en fait de l'épopée ?
Il propose une épopée qui, dans un certain sens, va à rebours des épopées traditionnelles, mais va à rebours de ces épopées uniquement en apparence, dans la mesure où il s'agit bien, chez lui, de fondation et d'exaltation d'un esprit national, même si cette nation est redéfinie. Évidemment, il ne s'agit pas de réécrire l'Iliade, etc. Mais on voit qu'il y a dans son œuvre, d'abord, le souffle épique, évidemment, la figuration, le grossissement, hein, la tendance à l'hyperbole, la tendance aussi à l'anonymat, c'est-à-dire qu'on est dans le collectif plus que dans l'individuel. Et il s'agit bien de fonder, mais de fonder son univers à lui. Et comme l'a montré Michel Suria, en cela je suis tout à fait d'accord avec lui, il s'agit d'un univers alternatif, c'est-à-dire que de substituer à l'univers dans lequel nous sommes un autre univers. Mais cet univers, il faut le fonder pour que l'alternative soit réelle, pour que vraiment il y ait un choix, voire un dilemme, en tout cas une question, que cela permette de revenir sur ce qui est à partir de ce qui n'est pas et de prendre cet écart par rapport au monde tel qu'il existe. Donc il s'agit bien de fonder cet univers, et en cela c'est proche, mais évidemment l'univers qu'il propose est un univers fort différent de celui de l'épopée. Mais c'est un univers tout aussi construit, avec ses règles, avec ses tabous, avec ses interdictions, et donc il y a une parenté de fonctionnement, même si il y a sur la nature même de l'objet une différence, voire une opposition radicale.
Une autre question, pourquoi chez Pierre Guillotat, donc c'est une question un peu naïve, mais j'aimerais entendre un peu votre propos en la matière, pourquoi chez Pierre Guillotat il y a toute cette matière sexuelle qui est le fondement de tous ces textes ? Pourquoi il y a cette matière qu'on retrouve dans tous ces textes ?
C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre par une réponse simple, unique et univoque, parce que ça serait d'abord prétentieux et ensuite certainement très réducteur. Je crois qu'il y a plusieurs éléments d'explication sans que je sache lequel, évidemment, l'emporte. Il y a des éléments qui sont liés à son parcours très jeune. Je le rappelle dans le livre, il y a d'abord ce viol qu'il subit à l'âge de 7 ans. Un viol collectif, hein, donc plusieurs jeunes garçons, dont deux au moins sont très nettement identifiés, donc la chose est avérée, elle est confortée par des témoignages, qui l'assaillent dans une salle de classe. Ça n'est pas indifférent, je crois que le lieu est très important. Et d'après, enfin dans le récit de Pierre Guillotat, donc, que la chose soit tout à fait avérée ou pas, peu importe. En tout cas, ça fait partie de la mythologie et ça enracine l'itinéraire. Tout près d'une corbeille à papier. Bon. Donc, Pierre Guillotat a la tête près d'une corbeille à papier. Ses violeurs le pénètrent et en même temps qu'ils le pénètrent, ils parlent. Et l'un d'entre eux est d'origine, semble-t-il, algérienne et parle un patois de la région de Saint-Étienne avec des consonances arabes. Bon. Donc on voit que d'emblée, les choses se nouent et les choses sont données simultanément. C'est-à-dire à la fois la langue, l'écriture et puis cette invasion par un sexe qui n'est pas désiré. Bon. Et ensuite, Pierre Guillotat écrira j'écris à présent dans la langue, ou j'écris maintenant dans la langue de mon viol. Bon, donc il y a bien quand même ce lien entre quelque chose qui est entré malgré soi dans le corps et quelque chose qui va en sortir délibérément et qui sera une forme de réappropriation, sans doute, de cette langue subie. Bon. Il y a ensuite, parallèlement, si ensuite quand même, la découverte de l'écriture qui se fait d'emblée en relation avec la sexualité, puisque Pierre Guyotat commence par dessiner à l'extérieur, avec sa mère, mais aussi dans des salles d'études. Et en même temps qu'il commence à dessiner, il apprend ou il fait l'expérience de la masturbation. Donc il commence par la trace, il commence par le dessin, et ensuite, à un moment, quand il a 14 ans, il découvre l'écriture. Cette écriture, elle est accompagnée à ce moment-là systématiquement d'un geste masturbatoire qui est destiné à prolonger la dimension, la pulsion orgiaque de l'écriture. Donc il s'agit de faire durer l'écriture dans ce qu'elle peut avoir de plus tenu, peut-être de plus fort, de plus violent. Donc il y a d'emblée cette interaction des deux. Alors ça a beaucoup frappé effectivement les esprits parce que en 1912 à Cerisy, Pierre Guyotat a prononcé un texte dans un colloque qui était consacré à Georges Bataille, qui était organisé par Philippe Solers, Artaud Bataille, et il a fait à ce moment-là l'aveu de ce rapport à l'écriture, et il a raconté dans quelles circonstances il avait pu commencer ce travail d'écriture. Par la suite, on a eu tendance du coup à considérer que systématiquement les textes de Pierre Guyotat naissaient de cette écriture masturbatoire, en étaient le résultat, voire le résidu, comme une sorte de reste, alors que bien évidemment, et il n'a pas cessé de le répéter, les choses se sont très rapidement séparées, distinguées, et l'essentiel de ces textes de fiction ont été écrits, comme il le dit, à deux mains, c'est-à-dire indépendamment de toute pratique sexuelle. Autre élément qui a un rapport avec cette question de la masturbation, c'est évidemment la virginité dans laquelle, dont Pierre Guyotat a fait l'aveu à Cerisy, en même temps que de cette technique, si on peut appeler ça une technique, enfin de cette pratique d'écriture, cette virginité dont il est très difficile de savoir si elle est la conséquence de l'écriture, c'est-à-dire à partir du moment où la matière de l'écriture, la figuration est sexuelle, prostitutionnelle, donc pas simplement sexuelle, mais elle est dans la prolifération sexuelle, elle est dans la chaîne d'hommes, elle est dans... Si du coup la rencontre de l'autre en devient difficile, donc est-ce que la virginité est une conséquence de l'écriture, ou bien est-ce que la virginité trouve son palliatif dans l'écriture. En tout cas, il y a, me semble-t-il, évidemment, un lien très fort entre les deux. Ça ne veut pas dire que Pierre Guyotat n'est pas une sexualité, évidemment. Ça veut dire simplement que cette sexualité est une sexualité complexe, une sexualité déchirée, qu'il ne faut réduire ni évidemment à l'homosexualité, ni à l'hétérosexualité, ni encore même à la bisexualité. Il s'agit au contraire d'une difficulté, d'un déchirement entre des pôles que seule l'écriture permet de vivre conjointement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on trouve ça notamment dans prostitution, mais finalement dans l'ensemble de l'œuvre, on a des créatures qui sont à la fois mâles et femelles, simultanément les deux, impossiblement les deux à la fois, et l'ensemble de son œuvre va du côté du deux et plus à la fois. On est toujours dans le dépassement de ce qui est séparé, de ce qui est de l'ordre de la scission, et le couple apparaît comme un danger, comme un risque d'étranglement, comme un risque de mort. Parce que le 2 va du côté de la stabilité, donc de la fixité, donc de la mort. Et que pour Pierre Guyota, l'écriture est précisément quelque chose qui, au contraire, est de l'ordre du mouvement et de l'ordre du mouvement vital. Et cette sexualité qu'il promeut, cette sexualité qu'il recherche, cette sexualité qu'il écrit, est une sexualité de la prolifération, bien sûr, mais aussi une sexualité de la tension, une sexualité de la quête de l'autre. Donc on est toujours dans ce mouvement vers l'autre, un mouvement qui, évidemment, est un mouvement infini. Donc je vois mal comment il aurait pu écrire autre chose aujourd'hui que le sexe. Mais ce sexe, pas plus que la guerre, n'est à prendre au sens strict il ne s'agit pas d'érotisme, évidemment, il s'agit encore moins d'évoquer des relations, même pornographiques ou duels. On n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans une énergie, dans la possibilité d'inventer quelque chose qui n'existe pas, dans un mode de rapport entre les êtres qui n'existe pas et un mode de rapport à soi qui n'existe pas, qui soit une façon d'aborder pleinement et simultanément l'ensemble des possibles. L'ensemble de ces possibles que, au contraire, la société dans laquelle nous vivons tente à canaliser et tente à limiter. Et lui, il est dans l'explosion, dans le déferlement de ses énergies pour nouer d'hommes à femme, de femme à femme, de homme à animal, enfin l'ensemble de ces choses. On est beaucoup plus dans un mouvement qui est cosmique que dans un mouvement qui relèverait d'une sexualité surtout limitée au sexe. C'est-à-dire que la sexualité chez Pierre Guyota n'est pas limitée au sexe. C'est une sexualité qui est extrêmement ouverte et qui prend en compte l'ensemble du corps, mais aussi l'ensemble de l'existence. Le travail relève de cette sexualité et le fait que le travail le plus souvent évoqué dans son œuvre, soit le travail prostitutionnel, montre bien comment on ne peut pas séparer les domaines, on ne peut pas séparer les registres d'activité.
Pierre Guyota, dans les années 80, pense beaucoup aux histoires de Samora Machel. Il le cite souvent dans Vivre, dans Explication, et s'en devient presque un texte mythique, ces histoires de Samora Machel. Est-ce qu'il y pense encore ou est-ce qu'il y a pensé récemment ?
Il y pense encore comme il pense à l'ensemble des projets qu'il porte depuis longtemps. La difficulté pour lui de revenir sur ce texte est liée au fait que c'est le texte qu'il a accompagné dans sa descente vers la mort à la fin des années 80. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il a travaillé simultanément sur ces deux matières, le livre et Samora Machel, mais le dernier texte sur lequel il s'est penché, ce sont les histoires de Samora Machel. Et c'est avec les créatures de Samora Machel qu'il a amorcé cette descente progressive qui l'a amené jusqu'au coma à la fin des années 80. Donc pour lui, revenir sur ce texte, c'est évidemment remettre ses pas dans cette période qui a été particulièrement rude. Alors, il avait amorcé ce mouvement dans les années 84-85, à partir du moment où il a commencé à revenir un petit peu à lui, puis il a repris ça ensuite au moment de bivouac, c'est-à-dire que l'écriture en versets qu'il avait découverte au moment de bivouac lui a permis de reprendre différemment ce texte et il avait entamé une mise en versets de ces carnets de Samora Machel, de ces histoires de Samora Machel. Enfin, je dis carnet parce que ce sont des textes qui sont écrits sur des petits carnets noirs, donc souvent lui-même parle de carnet. Mais c'est vrai qu'il n'est pas arrivé à mener cet effort à son terme. Donc c'est un travail qui a été suspendu, qu'il envisage évidemment de reprendre, qui fait partie, je crois d'ailleurs, des ouvrages annoncés comme à paraître, parce que tout ce qui n'a pas été tout à fait achevé pour lui reste de l'ordre du projet. Donc il a bien l'intention de reprendre ces histoires de Samora Machel, en même temps qu'il travaille sur le troisième volume de Progéniture, qu'il met au point Labyrinthe. Donc ça fait beaucoup de matière simultanément. Je ne sais pas si ces Samora Machel verront le jour très prochainement, mais il est évident que c'est un travail qu'il souhaite entreprendre, mais qui implique ce retour. Et comme pour lui, il ne saurait y avoir de retour sans réécriture, sans réinvention, cela oblige à avoir devant soi une durée, une disponibilité que les événements extérieurs ne lui laissent pas toujours.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de Chamorro à Machel? Qu'est-ce que ça contient? Enfin, quel est le contenu de ces histoires de Chamorro à Machel en quelques mots brièvement?
Je n'en ai lu que des bribes, que des extraits. Je n'ai pas lu la totalité. Il s'agit essentiellement de l'histoire de prostituées dans la région de Saint-Étienne, dans des taudis de Saint-Étienne, avec là encore passage, enfin suivi de l'histoire de ces prostituées, donc remontée de leur histoire, passage d'un lieu, donc Saint-Étienne à Lyon, me semble-t-il, on passe aussi par Marseille. Donc il y a tout un itinéraire là encore, une trajectoire, mais en soi, l'histoire, enfin, importe peu. Enfin, ce qui compte véritablement, c'est à nouveau, c'est ce mouvement, c'est cette densité, et on retrouve toujours, enfin, et encore dans Labyrinthe, je crois qu'il s'agit de ça, d'après ce que Pierre Guyotat a pu en dire, c'est-à-dire que c'est la traversée d'un taudis, d'une porte à une autre. Donc, on n'est pas très loin. Enfin, ça, apparemment, ça n'a aucun rapport, mais de Ferry pour une autre fois, de Céline, qui se passe tout entier dans un immeuble pendant un bombardement. C'est-à-dire que les choses se resserrent. En même temps, dans l'histoire de Chamorro à Machel, il y a un retour sur la Deuxième Guerre. C'est-à-dire que c'est une fiction qui se déroule au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une période que Pierre Guyotat a évoquée dans Tombeau pour 500 000 soldats, bien évidemment, mais que depuis, il n'avait jamais évoqué très directement dans ses fictions, un peu dans le livre, mais de manière assez fugace, puisque dans le livre, les choses sont toutes très rapides et très fulgurantes. Et là, autant que je le sache et autant que j'ai pu en lire et en juger, la fiction prend pied dans sa région d'origine. Hein, donc c'est une façon de revenir au pays natal et en même temps de revenir au pays natal doublement, puisque on y revient non seulement géographiquement, mais historiquement, en s'enracinant dans cette époque qu'il a vu naître. Qu'il a vu naître et qui a fondé beaucoup de ce qu'il est, c'est-à-dire ce rapport à l'extermination, ce traumatisme des corps nus vus en photographie après la libération des camps, évidemment la famille de Pierre Guyotat qui était extrêmement impliquée et combattante hein, dans la résistance avec une tante déportée qui a pu revenir et puis un oncle déporté qui lui est mort en déportation. Bon, tout ça fait évidemment que ce contexte l'a beaucoup touché. Je rappelle qu'il est né en 1940, hein, plus que touché, l'a bouleversé et a probablement été à l'origine d'un rapport aussi au corps, hein, au corps toujours maltraité, toujours souffrant. Si l'on vient ajouter aux sévices subis de la part des nazis, les privations liées aussi à la faim dans ces années-là, on a quand même l'essentiel, avec le fait que le père soit médecin, l'essentiel du rapport au corps de Pierre Guyotat.
Vous expliquez très bien, vers la fin de votre livre, le fait que Pierre Guyotat édite peu, c'est le poids de l'inédit, que l'œuvre s'écrit en continu, qu'il lui est très difficile de donner à ces textes une forme définitive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous parler de ce poids de l'inédit dans l'œuvre de Guyotat?
Oui, alors on rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur Histoire de Chamorro à Machel, c'est-à-dire que pour Pierre Guyotat, l'écriture est permanente. Il y a ce qu'il appelle un fond d'écriture permanente sur lequel se détachent des livres crises. Donc les livres se détachent pour l'essentiel, alors pas tout à fait pour le début, parce que Tombeau pour 500 000 soldats était un manuscrit tout à fait achevé, Eden aussi, mais ensuite les publications sont devenues un peu plus difficiles, et c'est souvent à la demande d'un éditeur que la chose finalement est bouclée, est isolée et détachée. D'ailleurs, on le voit pour Progéniture, deux volumes ont été publiés, alors même que le troisième est en cours et n'est pas achevé. Donc on a toujours cette écriture en cours et il est très difficile d'isoler. Alors pourquoi est-ce qu'il est difficile d'isoler? Parce que isoler, séparer, c'est encore une fois fixer. C'est encore une fois mettre à mort, c'est encore une fois matérialiser quelque chose qui devrait être de l'ordre du souffle, de l'ordre du mouvement, de l'ordre de l'impulsion vitale. Donc Pierre Guyotat est toujours du côté de cette avancée, du côté de ce mouvement, contre tout ce qui peut figer. En plus, il faut rappeler qu'il a quand même subi tant du côté de l'édition que du côté de la réception strictement, donc presse et puis lecteurs même confondus, sans parler même de la censure pour Eden pendant 11 ans. Il a subi des lectures, des lecteurs plus ou moins bien intentionnés, et qu'à un moment il a ressenti la nécessité de s'éloigner de ce marché du livre, tout simplement, pour pouvoir créer de manière entièrement libre. Ensuite, je crois que quand on a conquis cette liberté, qu'on l'a conquise un peu, peut-être malgré soi, dans un premier temps, parce que peut-être que si les choses avaient été reçues autrement, le cours de l'œuvre en aurait été modifié. Mais bon, dans la mesure où les choses ont été comme ça, à partir du moment où on a acquis cette liberté, où on a pris du champ, à l'égard de toutes ces formes de réception, la vanité en apparaît, et on est tenté de se demander mais à quoi bon finalement publier si c'est pour être aussi mal lu, aussi peu lu. Est-ce que vraiment se distraire du travail essentiel pour donner des livres est vraiment majeur. Alors, il y a eu quand même une modification, je crois. C'est-à-dire que ça a été un peu son état d'esprit, ça, entre 1976 et puis 1984. En 1984, ce sont ses amis Jacques Henric essentiellement et Philippe Solers ensuite qui l'ont ramené à l'écriture et à l'édition, à un moment où il était en train de reprendre un peu souffle et vie. Mais ensuite, il n'a plus rien publié entre 1984. Je parle d'ouvrages constitués. Il y a eu des textes, évidemment, qui ont paru, mais entre 1984 et 2000. Donc, à nouveau, on a 16 ans de ce silence. Alors, évidemment, ponctué de beaucoup de lectures, de beaucoup d'interventions, mais des interventions d'un autre ordre qui nous mettent en contact direct avec le public, dans un rapport peut-être plus authentique, moins faussé, où aussi il avait quelque chose de plus vivant. Et après ces années rudes, il était sans doute désireux de cela. Donc, mais il me semble que depuis 2000, les choses ont quand même évolué, parce que en 2000, il y a eu le livre d'entretien que Pierre Guyotat a fait avec Marianne Alphand, Explication, qui a été un ouvrage important, et Progéniture, qui est un texte majeur. Et à ce moment-là, il a aussi rencontré Léo Cher, qui l'a quand même beaucoup accompagné dans son parcours. Et il a été beaucoup plus entouré que par le passé. Donc je crois que maintenant, il est quand même à nouveau dans un désir de livre, comme en témoigne la publication de ce premier volume des Carnets, tout récemment, et la réédition, même si ça n'est pas son initiative, des deux premiers textes, hein, HB et Sur un cheval. Il est conscient quand même de la nécessité de revenir vers le public, de renouer, et peut-être que le moment est venu. Il a le sentiment que quelque chose frémit qui rend son œuvre peut-être plus accessible. Et le fait que mon livre à moi paraisse, qui donne des éléments de compréhension, qui fasse peut-être aussi un travail de pédagogie, l'accompagne et le soutient, je crois, dans ce retour.
Il y a une disproportion très importante entre le nombre de pages consacrées au Guyotat des années 60 et 70 dans votre livre et le nombre de pages consacrées au Guyotat des années 80 et 90. Ma question est donc, à quoi est due cette disproportion ?
Alors, cette disproportion, elle est liée au fait que le Guyotat des années 60-70 est un Guyotat qui a eu une existence publique, une existence dans la cité, plus marqué, avec des signes plus facilement perceptibles que le Guyotat des années 80-90. Le projet de restituer ce parcours implique de le recontextualiser. Et le travail de contextualisation est évidemment plus important pour le Guyotat des années 60-70 que pour le Guyotat des années 80-90, qui est un Guyotat relativement solitaire. Et donc pour lequel l'essentiel a trait à l'analyse des textes. Le Guyotta des années 80-90, c'est un Guyotta qui vit par, pour l'écriture uniquement, quasi exclusivement. Ce qui n'exclut pas évidemment des amitiés et une vie comme tout un chacun, mais l'essentiel de son existence se situe à ce niveau. Dans les années 60-70, la chose est tout à fait différente. D'abord, il y a la guerre d'Algérie, qui est un moment majeur du parcours, dont on a beaucoup parlé, et sur laquelle je voulais essayer de rétablir quelques vérités, puisque on a fait de Pierre Guyotta un grand révolté au moment du conflit. Et de fait, il a fait plusieurs mois, alors deux probablement, peut-être même pas tout à fait de cachot. Il ne s'agit pas de minimiser la réalité de la chose, mais de voir de quoi il s'agissait en réalité. Et on voit que ce dont il s'agissait en réalité n'a rien à voir avec une révolte politique majeure qui viendrait fonder l'itinéraire. Au contraire, il s'agit, quand Guyotta arrive en Algérie, il n'a pas ou peu d'idées politiques, il connaît peu de choses sur la situation, il est a priori un peu gêné par ce qui se passe, mais sans en connaître vraiment les tenants et les aboutissants, et c'est en Algérie qu'il va se faire une opinion. La raison pour laquelle il est incarcéré, c'est simplement que, alors il y a plusieurs choses qui sont reprochées, évidemment, la possession, divulgation, comme on disait à l'époque, de journaux interdits, donc le fait d'avoir Le Monde, d'avoir France Observateur, que lui envoyait sa tante, donc quelqu'un de très respectable mais néanmoins révolté, bien sûr. Et puis, complicité de désertion, parce que l'un de ses amis algériens, effectivement, avait déserté, mais contre l'avis de Pierre Guyotta, et atteinte au moral de l'armée. Bon, alors, ce qui reste relativement flou. Donc, il me semblait que c'était important de rappeler dans quel état d'esprit il est arrivé là-bas, ce qui lui avait importé, surtout en Algérie, dans un premier temps, c'est-à-dire de continuer à écrire, et on voit dans sa correspondance que vraiment, il essaie de se bagarrer pour pouvoir préserver les conditions d'une écriture possible. Et ce qui l'a frappé évidemment le plus, c'est-à-dire l'humiliation de l'homme par l'homme dans tous ses états, et toute une série de barbaries, mais qui n'étaient pas forcément les barbaries perpétrées par les Français contre le FLN ou contre les Algériens. Donc un ensemble de choses à ce moment-là qui me semblait nécessaire de rappeler, sur lesquelles il fallait faire un petit point. Bon, ensuite, il y a évidemment l'émergence de son œuvre, évidemment, sur un cheval, Ashby avait existé, avait été reçu, mais le grand choc, ça a été Tombeau pour 500 000 soldats. Et là, il y avait à la fois un contexte éditorial, avec toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, et puis une mobilisation et la rencontre avec Tel Quel. Et là, il me semblait nécessaire de faire encore une fois un point. Et puis, il y a évidemment Eden, avec toutes les affaires que cela a pu drainer, tout ce que cela a pu impliquer à la fois de reconnaissance et en même temps de malentendus, puisque souvent, chez Pierre Guyotta, les reconnaissances ont eu lieu sur fond de malentendus. Il s'agissait de fausses reconnaissances. On lui disait, oui, c'est formidable, vous êtes un subversif, nous sommes pour vous, mais c'est parce que votre littérature est interdite. Et à partir évidemment du moment où les choses prennent un autre aspect, à ce moment-là, on s'étonne et on laisse tomber Guyotta purement et simplement. Donc il y avait toute une série de choses à rappeler pour comprendre à la fois où s'originait l'itinéraire non plus biographique, mais enfin l'itinéraire de la réception, l'itinéraire éditorial, l'itinéraire public. Et puis c'est le moment aussi du Parti communiste, de l'implication politique, de l'engagement collectif. Et il était impossible de comprendre la nature de sa solitude actuelle et de sa solitude choisie, si on ne percevait pas par quels efforts, par quelles tentatives de mouvement collectif il était passé. La solitude d'aujourd'hui est une solitude qui vient dans la suite, dans le mouvement de ce désir de groupe, de ce désir de collectivité, de ce désir de bagarre publique. Il n'y a pas de solution de continuité entre les deux. Les deux se font dans le même mouvement. Mais on ne pouvait pas comprendre l'un sans l'autre. Alors évidemment, il est plus rapide de dire qu'il y a solitude que d'évoquer toutes ces mobilisations dans leur histoire. Et comme ce sont des sujets qui sont parfois un tout petit peu polémiques, il fallait essayer de revenir précisément sur les éléments en question.
D'accord. On va continuer un tout petit peu sur ce sujet-là, parce que j'étais assez frustré de ne pas trouver plus d'informations sur l'écriture de progéniture, et c'est peut-être aussi parce que c'était pas possible d'avoir plus d'informations sur cette écriture. Dans quelles conditions s'est écrit progéniture? Bah, vous y avez assez répondu, dans des conditions plutôt de solitude. Mais comment ce long texte s'est écrit? Vous avez écrit à un moment donné, c'est à partir de plusieurs textes qui ont été assemblés les uns les autres pour former progéniture, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que comme Pierre Guyotat écrit en continu, il écrit plusieurs textes et parfois, pour se distraire, dit-il, de ses textes, il écrivait une fiction qu'il appelait « Exercice de détente ». Bon. Et en fait, ce texte annexe est devenu le texte principal sur lequel sont venus se greffer deux autres textes, Ali et Bachir. Et donc, Ali et Bachir sont les éléments de progéniture. Progéniture, ça c'est comme une espèce de vaste fresque dans laquelle ont été intégrés ces autres textes qui étaient écrits simultanément et en même temps à des moments différents et dans la discontinuité. Donc il y a un moment où tous ces éléments sont venus se fondre, relayés par ces sortes de didascalies qu'on trouve dans le texte, qui sont des passages de l'un à l'autre, du père au fils, de Bachir à Ali. Donc on a dans l'ouvrage comme une sorte de réunion de ces strates, qui sont des strates généalogiques, des strates historiques, et qui en même temps sont des strates d'écriture. Donc la filiation Ali-Bachir, elle apparaît également dans la genèse du texte. Donc il y a un moment où, et là je ne sais pas très bien de quelle façon, parce que je n'ai pas pris le temps d'étudier la genèse de cet ouvrage, donc je pas effectivement vous en dire plus parce que je n'ai pas fait ce travail approfondi. Je me suis contentée de lire l'ouvrage publié et puis quelques éléments qui étaient déposés. C'était à l'époque à l'IMEC, maintenant c'est à la Bibliothèque nationale, des plans de progéniture. Mais il y a tout un travail de ramification et ensuite un travail pour rassembler ces éléments. Et alors, je sais que ce qui était important pour Pierre Guyotat à ce moment, c'était d'essayer de faire apparaître la composition du texte, la structure, en maintenant ce qui ressemble justement à des didascalies pour aider le lecteur à s'orienter un petit peu dans cette matière. Donc avec ces éléments qui sont à la fois de l'ordre de la note de régie et en même temps, en quelque sorte, à la fois du résumé et puis de la programmation de ce qui va venir.
Je vais vous poser une question un peu plus générale. Michel Suria place l'œuvre de Pierre Guyotat sur le trône du matérialisme. De la généalogie de Sade notamment, c'est-à-dire que l'œuvre de Guyotat serait un summum du matérialisme artistique. Est-ce que vous partagez cette vision?
Non. Non, je pense que la matière, et Philippe Solers l'avait d'ailleurs très brillamment montré dans cet article intitulé « La matière et sa phrase » qui était paru dans Critique en 1972, l'avait montré. La matière joue évidemment un rôle majeur dans l'œuvre de Pierre Guyotat. Mais je ne crois pas que la matière soit le fin mot de cette œuvre. Je crois que la matière est même dans Éden, la matière est une sorte de substitut, est une sorte de palliatif, en même temps, bon, une réalité évidemment obligée, mais Dieu est mort, donc il reste la matière. Il y a un moment où il y a cette matière-là. En même temps, on voit que Tombeau est tout sauf une œuvre matérialiste. C'est une œuvre lyrique, c'est une œuvre où, bien sûr, la matière est présente, mais la matière est chantée. Donc la matière est sublimée, la matière est portée vers autre chose qu'elle-même. Éden est un ouvrage qui tente effectivement à l'épure. Donc on peut avoir le sentiment qu'il ne s'agit que de matière. Mais s'il ne s'agissait de matière, pourquoi, et uniquement de matière, pourquoi est-ce qu'on aurait cette scène finale, cette scène de déluge, où au contraire on assiste à une refondation, où l'homme et la femme se retrouvent présents, avec l'utilisation des eaux qui vient laver, qui vient purifier, comme purifier toute cette matière antérieure, comme si tout ce qui précédait n'était là que pour parvenir à autre chose. Et ça devient évidemment beaucoup plus net encore à partir du livre, bien sûr, mais à partir des œuvres en cours et de progéniture. C'est-à-dire qu'il s'agit du verbe. Hein. Et alors évidemment, le verbe est une matière. Bien sûr, le verbe est une matière. Mais si on tire la matière du côté du champ, c'est que on veut faire dire à la matière autre chose qu'elle-même. En tout cas, qu'il y a un désir d'échapper à la matière, de s'extirper de la matière, et que la matière est une fatalité. Mais la matière n'est pas le tout. Si la matière était le tout, on n'aurait pas besoin ni désir d'aller au-delà de cette matière. Et je crois que le rapport de Pierre Guillotat à la matière est beaucoup plus complexe que cela. Il y a bien sûr matière, mais il y a aussi ce souci de transcender la matière par le verbe, de la rouler, de la porter par le verbe et de la faire chant. Or, le chant, on le sait, est quelque chose d'éminemment religieux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui établit un lien et pas simplement qui pose, qui sépare et qui juxtapose comme la matière tente à le faire.
Vous écrivez vers la fin de votre ouvrage, la double publication de progéniture et d'explication n'a pas révolutionné comme elle l'aurait dû la vie littéraire. Alors ma question, c'est à quelle hauteur placez-vous l'œuvre de Pierre Guillotat ? Vous pouvez y aller franco, hein.
Je la place évidemment très haut. J'aurais pas consacré toutes ces années à travailler sur cette œuvre si je ne croyais pas à sa force et à sa puissance. J'ai beaucoup de mal avec les hiérarchies et pour moi, elles ne riment pas à grand-chose, mais je considère que c'est effectivement l'un des auteurs majeurs du 20e, enfin du 20e, 21e, en tout cas de l'écriture contemporaine. D'abord, pour une simple raison, qu'il n'a pas d'équivalent. Quand je travaillais sur ma thèse, mon directeur de thèse, Francis Marmande, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, me disait que ça aurait été bien que je trouve des éléments de comparaison. Et j'ai cherché, j'ai lu, et je n'ai pas trouvé. Alors évidemment, on peut dire Joyce, on peut dire Céline, on peut dire Rabelais, on peut dire... Bon, très bien. Mais on voit bien que si on en est réduit à dire Joyce, Rabelais, Céline, c'est précisément parce qu'on ne trouve rien aujourd'hui dans le paysage littéraire qui ressemble de près ou de loin à Pierre Guillotat. Alors on m'a dit Novarina, non, ça n'a absolument rien à voir avec Novarina. C'est quelque chose de tout à fait singulier. Et en cela, c'est une œuvre extrêmement forte. Et puis c'est une œuvre qui s'impose aussi par son obstination, sa ténacité, sa persistance, contre vents et marées, contre tous les avis. Et j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour cette force, pour cette foi en l'œuvre. Et il me semble qu'il n'y a finalement pas de meilleure preuve de l'existence d'une œuvre que la foi que son auteur a en elle. C'est-à-dire cette capacité à maintenir le cap, alors même que tous disent « bon, ça va, maintenant on a compris, vous savez faire des choses extrêmement extrêmement fortes, mais revenez, faites-nous des choses simples que nous puissions lire facilement ». Et donc ce souci, ce désir de s'en tenir vraiment au fait de l'écriture, de ne jamais rien concéder, signe, je crois, la grandeur aussi d'une œuvre. De mon point de vue, on a là à la fois un parcours de l'époque, hein, une traversée de l'époque, avec tout ce qu'elle a pu impliquer, à la fois d'atrocité et en même temps d'aspiration à la liberté. Et en même temps, on a un travail sur la langue avec une préscience de ce qui va se passer dans la langue. Parce que quand Pierre Guillotat a écrit Prostitution en 1975, on n'est pas encore tout à fait dans cette forte présence de l'immigration dans ces parlers que l'on entend aujourd'hui qui sont très métissés, et on a déjà ça dans l'écriture. Donc il y a vraiment une anticipation, une connaissance de l'œuvre qui va bien au-delà de la connaissance que l'homme peut avoir tout à fait consciemment de ce qui se passe à ce moment-là. Et quand on a une intelligence de l'œuvre qui est supérieure à l'intelligence de l'homme, de mon point de vue, on a affaire à une grande œuvre.
Ma dernière question, de tous les livres qu'a publié Pierre Guillotat, d'après vous, lequel est son chef-d'œuvre absolu ?
Je ne dirais pas lequel est son chef-d'œuvre absolu, je dirais lequel est mon préféré. Mon préféré, c'est Eden, Eden, Eden. Et je crois que c'est mon préféré pour de très mauvaises raisons. C'est parce que c'est le premier que j'ai lu. C'est celui qui m'a immédiatement frappé. C'est celui qui m'a donné envie d'aller plus loin. C'est celui qui m'a engagé finalement pendant toutes ces années. Donc après, ça c'est un coup de cœur. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'affectivité. Je trouve à chacun des mérites. J'arrive à défendre chacun très volontiers. J'aime aussi beaucoup Prostitution, qui est un livre dont on a peu parlé, qui a été l'un des moins lus, mais qui me semble très drôle, très très puissant, très inventif. Donc j'aime beaucoup la liberté, la fantaisie. Et puis j'aime aussi beaucoup Vivre, le recueil de textes intitulé Vivre, qui est très divers, mais qui contient des choses extrêmement fortes dans cette façon de relier la pensée à la fiction, de toujours soumettre la pensée à l'épreuve des faits et à l'épreuve de l'existence, notamment le texte intitulé « Cassette 33 tours longue durée » qui était paru dans Minuit, qui est, je crois, mon texte préféré du recueil.